Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Fumée blanche à Matignon, la liste des nouveaux ministres est enfin arrêtée. Bonjour Jacques Serret, vous êtes en direct avec nous ce matin.
Bonjour.
On l'a appris il y a une heure à peu près, le nouveau gouvernement sera donc annoncé cet après-midi.
Oui, ça y est, la fin du suspense, c'est pour aujourd'hui. L'Élysée annonce que le premier gouvernement du second quinquennat Macron sera dévoilé cet après-midi. Pas encore de précision sur l'horaire, mais c'est Alexis Koller, le secrétaire général du Palais, qui égrènera la liste des heureux élus sur le perron de l'Élysée. Il aura donc fallu 4 jours de tractation entre Emmanuel Macron et la nouvelle première ministre pour composer ce gouvernement. Alors les rumeurs vont bon train. Ce que l'on sait, c'est que certains futurs ministres ont été appelés hier et ont été prévenus de leur affectation. Désormais, le compte à rebours est enclenché après l'annonce du gouvernement dans quelques heures. Les différentes passations des pouvoirs devraient se dérouler foulées cet après-midi, ce soir ou plus tard demain, ce qui va laisser le champ libre à Elisabeth Borne ce week-end. La première ministre doit se rendre dans le Calvados pour aller faire campagne dans la circonscription où elle se présente pour les législatives. Et lundi matin, nous précise l'Elysée, aura lieu le tout premier conseil des ministres de ce gouvernement.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
La question est de savoir quel est le programme que cette nouvelle l'équipe ministérielle appliquera. Il est question du gel des loyers pour le locataire de Bercy, pour le nouveau ministre du Travail. Il y aura fort à faire car de nombreux secteurs manquent de bras. 200 000 postes à pourvoir dans la restauration et 7 000 au volant des autocars par exemple.
Et au bord des piscines, il manquerait entre 2 000 et 7 000 maîtres nageurs sauveteurs diplômés. La période estivale approchant, les collectivités et les dirigeants de centres aquatiques s'inquiètent. Hier après-midi, à Liévin, dans les Hauts-de-France, ils ont donc organisé un job dating pour recruter une centaine de candidat. Le reportage de Lionel Gougelot.
Quelques plaquettes et des fiches de recrutement étalées sur la table. Yvric Debal, responsable des équipements sportifs de la communauté de communes de Péronne, attend les candidats.
On a besoin de 2 maîtres nageurs.
Salaire net 1 500 € par mois, poste à pourvoir le plus rapidement possible pour la piscine municipale.
Sinon, on est obligé de réduire en termes d'activité, d'amplitude horaire, voire penser à terme, si ça perdure, à des fermetures de piscine. On pourrait aller jusque-là, oui.
Comme à Péronne, la plupart des municipalités peinent à recruter ces maîtres nageurs sauveteurs, faute de candidats. Jean-François Druon dirige un centre de formation spécialisé.
On a les formations réparties sur le territoire, on a le financement pour les formations, mais on a des difficultés à avoir les jeunes pour entrer en formation.
Et quand ils sont là, diplômés comme Ryan, eh bien ils sont exigeants.
On trouve que nos salaires ils sont encore un peu bas, donc on va forcément aller vers la structure où le salaire sera le mieux. Et après c'est l'amplitude horaire qu'il faut négocier, donc forcément savoir combien de week-ends on va travailler, à quelles heures on va terminer. Ce sont les 3 critères en tout cas que moi je recherche dans une piscine avant de signer. Et c'est je pense la plupart des maîtres nageurs ou futurs maîtres nageurs qui sont ici, on va plus facilement aller se diriger vers des entreprises que des collectivités parce que forcément, on sait que ça va être plus attractif et beaucoup plus modulable au niveau de nos conditions.
Des établissements dans lesquels les maîtres nageurs peuvent se faire un complément de revenus en donnant des leçons particulières.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Le drame hier à Plogoff dans le Finistère, 3 membres d'une même famille sont morts, emportés par une vague sur une digue.
Oui, 2 parents et l'un de leurs enfants âgé de 12 ans, 3 autres enfants de la fratrie qui n'étaient pas montés sur la digue sont pour leur part sains et saufs, mais très choqués.
8h04, ça n'est pas encore Robocop, mais la robotisation de l'armée de terre est en plein essor.
Oui, Europe 1 vous emmène ce matin au cœur du challenge COOMA pour collaboration homme-machine, chien-robot, drone. Depuis un an, des élèves ingénieurs planchent sur la manière dont on pourrait repérer des pièges ou désactiver des mines à distance. Épaulés par les experts d'entreprises spécialisées comme Thales ou Nexter, ils ont créé des engins robotisés. Cette semaine, ils les testent sur le camp militaire de Benne, dans les Yvelines. Une guerre des robots qu'a suivi William Molinier pour Europe 1.
La drôle de créature à 4 pattes s'élance sur le champ de bataille. Son rôle est de désactiver un piège qu'un drone vient de localiser. Ce chien robot a été développé pendant un an par des étudiants en école d'ingénieurs avec l'aide de groupes industriels de défense. Il participe à un challenge lancé par l'armée de terre qui attend des solutions opérationnelles, comme l'explique le colonel Sébastien, directeur du laboratoire d'innovation.
On est vraiment dans cette logique de faire rentrer le robot dans la force conventionnelle pour atteindre des effets que jusqu'à présent on ne sait pas réaliser, en dehors d'envoyer des soldats et de risquer des vies pour réaliser des actions très techniques sur le terrain.
Le matériel automatisé rentre progressivement dans l'arsenal de l'armée de terre, comme les mules des déjà testés en opération extérieure, ces drones terrestres qui peuvent transporter les sacs et les paquetages des soldats tout en étant connectés avec des drones aériens. Et c'est d'ailleurs cette feuille de route qu'a suivi Jules, étudiant à Polytechnique Montpellier.
C'est là tout le but du challenge en fait, c'est la collaboration homme-machine. Ce qui était compliqué, c'était la centralisation des différentes données qui venaient de chaque drone terrestre comme aérien.
Jusqu'à mardi prochain, 10 équipes s'affrontent à tour de rôle dans cette guerre connectée et robotisée. L'armée de terre leur a donné 3 heures pour prendre le dessus sur le scénario qu'elle a imaginé et sélectionner peut-être des solutions innovantes qui préserveront à terme la vie des soldats français sur les terrains de guerre.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Aux États-Unis, la Maison Blanche au secours des bébés américains.
Oui, depuis plusieurs semaines, il manque du lait maternisé aux États-Unis. La semaine dernière, le taux de rupture de stock dépassait les 40%. Alors Joe Biden a annoncé plusieurs mesures d'urgence, un renforcement de la production et un pont aérien, Alexis Guilleux, pour booster les importations.
Oui, la Maison-Blanche réquisitionne les avions commerciaux du ministère de la Défense. Ce dispositif a déjà été utilisé au début de la pandémie pour acheminer du matériel sanitaire vers les États-Unis. Il permettra à court terme de remplir à nouveau les étagères des magasins. Alors que cette pénurie dure depuis plusieurs mois, l'administration Biden a été surprise par l'aggravation de la situation en quelques semaines. Face aux critiques de l'opposition, le président a donc dû monter en première ligne.
C'est l'une de mes priorités. Je sais que dans tout le pays, les parents s'inquiètent de ne pas trouver de lait maternel. En tant que parent et grand-parent, je sais à quel point cela est stressant.
Joe Biden a également invoqué le Defense Production Act, mesure d'économie de guerre. Elle oblige les producteurs de matières premières à fournir en priorité les fabricants de lait en poudre et devrait permettre d'éliminer progressivement les ralentissements sur la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a que 4 fabricants de lait pour nourrissons aux États-Unis et la principale usine a été fermée en février pour raisons sanitaires aggravant la pénurie. Elle doit rouvrir dans les 15 jours, mais les experts préviennent qu'il faudra encore attendre plusieurs semaines pour observer un retour à la normale sur l'ensemble du territoire.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Allez, direction Cannes pour terminer ce journal. Ce matin sur Europe 1, on s'intéresse à un habitué de la croisette, le réalisateur français Arnaud Desplechin.
Toujours présent, mais jamais primé. Cette année, il est en compétition avec son film Frères et Sœurs, l'histoire douloureuse d'une relation conflictuelle entre un frère et une sœur. Récit psychologique qui pousse à la réflexion. Marie Jiquel.
Une guerre sourde oppose un frère, Melville Poupeau, excellent dans ce rôle de colosse au pied d'argile, et sa sœur Marion Cotillard. Ils se détestent et s'évitent depuis des années.
Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place.
Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur.
Comme très souvent, le cinéaste Arnaud Desplechin dissèque les entrailles d'une famille avec son lot de rancœurs enfouies.
C'est une histoire d'amour. C'est simple, c'est un frère et une sœur, ils s'aiment trop. Alors ils s'aiment tellement trop qu'ils se disputent. Et tout le film va travailler à ce qu'ils arrêtent de se disputer parce que la dispute, c'est une perte de temps.
Pourquoi vous n'avez jamais cherché à réparer ?
Réparer quoi ?
C'est ma grande sœur. Arrêtez sa haine.
Les films, quand je les écris avec ce qui me fait le plus peur au monde. Vous voyez, on écrit avec des choses terribles, des sentiments qui vous effraient comme ça et vous les mettez sur l'écran. Et vous les mettez sur l'écran pour les conjurer.
Frères et sœurs apparaît comme la possible suite d'un conte de Noël, ancien long métrage d'Arnaud Desplechin, succès public et critique, notamment au Festival de Cannes en 2008.
Marie Jiquel, envoyée spéciale d'Europe 1 au 75e Festival de Cannes.
Allez, un mot de sport pour terminer. Le football, et c'est l'affiche ce soir en Ligue 2, la JOCR contre le FC Sochaux. Ce sera à suivre dans Europe 1 Sport à partir de 20h jusqu'à 23h avec Lionel Rosso et toute l'équipe du service des sports d'Europe 1. Il sera aussi question de Roland Garros, dont on connaît maintenant l'affiche du tournoi principal. Merci beaucoup Fanny, bon week-end, on vous retrouve lundi matin dans un instant sur Europe 1. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité d'Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.